La parole est la vérité ô Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a des salis en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es la voie obligée pour que nous accédions au Père. À qui irions-nous, Seigneur? Sans toi, il n'y a pas d'avenir. Sans toi, il n'y a plus d'espoir. Sans toi, ô Dieu, tout l'avenir est hypothéqué. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi, ô Dieu, qui donne la vie. Et sans toi, il n'y a pas de vie, ô Dieu. C'est pourquoi ils avaient raison de dire à qui irions-nous d'autres? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons goûté à ta parole, ô Dieu. Nous avons goûté à ce qui sortait de ta bouche, ô Dieu. Et nous avions été façonnés, transformés, ô Dieu. Et toute notre vie a été, Seigneur, réindiquée, transformée, récassée même, ô Dieu. À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Seigneur, ô Dieu? Nous avons mis les pas, Seigneur, voilà que, ô Dieu, nous avons été totalement façonnés, transformés. Et ce matin, Seigneur, nous disons encore, ô Dieu, à qui irions-nous? Nous disons encore, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? Tu nous as pris de nulle part, tu nous as ramassés dans la bassesse, dans la boue, dans la médiocrité. Et les pas que nous avons franchis, ô Dieu, qui peut être apprécié par le monde aujourd'hui, n'a été possible que parce que nous sommes venus à toi. Cela n'a été possible que parce que tu nous as ouvert tes bras d'amour. Tu nous as accueillis, ô Dieu, devant toi. Nous avons été lavés, nous avons été sauvés. Nous avons, Seigneur, reçu de toi, ô Dieu, ce qu'il y a de plus meilleur au monde, ô éternel. Aujourd'hui, nous sommes présentés en public comme des panneaux, ô Dieu, que tu as toi-même confectionné. Et tu peux t'identifier, ô Dieu, au travers de ces hommes hier minables et médiocres, ô Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils peuvent refléter, ô Dieu, ta gloire. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Sans ici hier, sans référence hier, sans nom hier, sans toi de cité en Israël, sans accès aux promesses, ô Dieu. Sans accès aux alliances de la promesse, ô mon Dieu, sans Christ. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous portons ton nom. Nous portons les germes de l'éternité, ô Dieu. Nous portons en nous les marques du salut, ô Dieu. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Toute notre valeur, c'est toi. Tout ce qui peut impressionner le monde autour de nous n'a été que l'œuvre de Jésus. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Ce matin, Seigneur, nous réitérons notre confiance en toi. Ce matin, nous réitérons, ô Dieu, notre attachement à toi. Ce matin, nous réitérons notre dépendance à toi et à toi seul. Pour te dire que nous n'avons besoin que de toi et de toi seul. Ce matin, Seigneur, nous avons encore besoin de ces paroles qui transforment et qui façonnent nos vies. Merci, Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu, et donne-nous des grâces, des puissances et des forces, alors que nous sommes venus à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous amen et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous poussons vers lui des cris de joie, nous les célébrons, nous les magnifions. Personne d'autre n'est comme lui, à qui irions-nous? C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Shalom et bénis du Seigneur. Les premiers mots ce matin sont d'abord de dire merci à Dieu qui a rendu possible ce programme. Et ce n'est pas un culte de plus, mais c'est un rendez-vous exceptionnel ce matin avec lui. C'est un rendez-vous tout à fait spécial que nous avons là devant lui et avec lui. Mais aussi, j'aimerais dire merci aux
frère Maurice Noum, qui n'est pas là ce matin, pour cette énième marque de confiance réitérée à notre modeste personne. Que Dieu se souvienne de lui et de toute la famille, ma fille et les enfants. Ce matin, nous voulons retourner dans Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Normalement, nous devions continuer avec notre père qui est aux cieux. Il y a eu une urgence à Kinshasa qui a nécessité à ce que le pasteur Maurice se déplace. Et nous voulons juste ouvrir cette petite parenthèse et la refermer vite parce que le dimanche prochain, nous reviendrons avec notre père qui est aux cieux. Amen. Nous voulons vraiment continuer avec cet enseignement et ne pas avoir des interruptions. Amen. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Notre culte a été un peu diminué, c'est vrai. Nous sommes toujours à nos heures, mais il y a une rumeur qui a circulé comme quoi les cultes sont revenus aux heures d'avant. Non. Nous avons trouvé la meilleure formule et nous ne sommes pas prêts à changer cette formule. Les cultes seront toujours à 7 heures, et les premiers de 7 heures à 9 heures, et les deuxièmes de 9h30 à 11h30. Comme ça, avant midi, tu es à la maison. D'accord? Voilà. Donc, dites à tout le monde que les programmes, les horaires n'ont pas changé. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 11 au verset 19. 1 Samuel chapitre 2, du verset 11 au verset 19. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Voilà, si nous avons trouvé, nous pouvons lire à partir de la Bible ou bien sur l'écran derrière moi. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ici, nous voulons fixer le contexte. Anne n'avait pas des enfants, mortifiée par sa rivale Pénina, elle prie, elle fait un vœu à l'Éternel pour dire, si tu me donnes un enfant garçon, je te le consacrerai, et tout ça toute sa vie. Et Dieu exauce la prière de Anne. Anne finalement a un enfant, et l'enfant s'appelle Samuel. Et là, elle est en train d'accomplir le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Quel était ce vœu? Je vais consacrer cet enfant à l'Éternel. C'est-à-dire, j'irai le déposer dans la maison de l'Éternel pour qu'il soit au service de Dieu toute sa vie. Et là, ils viennent de procéder à cette remise et reprise avec les sacrificateurs Élie. Alors, le verset 11 nous annonce la suite des événements. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. C'est-à-dire, ils ont finalement procédé à cette remise et reprise, ils ont laissé l'enfant. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fit au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair. Et là, à la main, une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point des chairs cuites. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18, Samuel faisait les services devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Amen. Seigneur, nous voici encore, ô Dieu, dans ce rendez-vous avec ta parole, car ta parole est la vie, ô Dieu, et c'est le meilleur des rendez-vous qui puisse exister. car c'est un rendez-vous qui façonne des vies, c'est un rendez-vous qui produit des grands, c'est un rendez-vous qui redresse des vies courbées, c'est un rendez-vous qui relève au Dieu même ceux qui sont assis dans la ruine. La puissance du cri de l'adopter, Seigneur, c'est ce que nous attendons au Dieu pour nos familles, pour nos villes, pour nos pays, pour notre monde, au Dieu. Et ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu as mis à part un homme. Tu l'as pris de ses souches sales et tu l'as doté, tu l'as investi, ô Dieu, de tous tes privilèges et avantages pour qu'il soit une solution au problème de son peuple. Et ce matin, Seigneur, nous voici devant toi, ô Dieu. Rends-nous conformes à ta parole et instruis-nous. Au nom de Jésus, amen. Nous voulons accueillir la parole de Dieu par des applaudissements. Merci Jésus. La puissance du cri de l'adopté nous avait proposé en son temps trois vérités fondamentales suivantes. La première vérité, nous avions dit, par l'adoption, Dieu passe par l'adopté pour la survie du monde. La deuxième vérité, nous avions dit que tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Et la troisième vérité que nous pourrons peut-être voir par la grâce de Dieu, je ne sais pas quand exactement, c'est que par l'adoption, ton frère est la solution à ton problème. Par l'adoption, ton frère est la solution à ton problème. La première vérité ayant été analysée, nous avons entamé l'analyse de notre deuxième vérité en posant notre problématique sur plusieurs questions, dont la dernière est présentée de la manière suivante. Je disais que la première vérité ayant été analysée, c'est-à-dire nous avons déjà vu par l'adoption et pas par l'adopté pour la survie du monde, nous avions entamé l'analyse de notre deuxième vérité, intitulée « Tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde » en posant notre problématique sur plusieurs questions, dont la dernière présentée de la manière suivante. À quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel l'adopté porteur des solutions aux problèmes d'Israël? Puisque nous disons tout adopté est au départ un porteur voilé des solutions aux problèmes du monde. Alors la question que nous avions posée pour la dernière fois était celle de savoir, c'est dans le fond de cette vérité, à quel moment Dieu a-t-il fait de Samuel l'adopté porteur des solutions au problème d'Israël. Alors, l'une des réponses à cette question nous avait dit exactement ceci. Samuel était déjà, avant sa naissance, porteur des solutions au problème d'Israël. Nous sommes référés à ce que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 1er. Lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, lorsque tu étais encore informe, une masse informe, dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais consacré prophète des nations. Donc, ce qui revient à dire que l'homme solution, l'homme porteur des solutions, ne le devient pas au fil des années. Mais il est déjà avant sa naissance, cet homme-là. Amen. Donc, Samuel était déjà avant sa naissance, porteur des solutions aux problèmes d'Israël. Et c'est formidable. Cependant, la puissance de son cri dépendait d'une part de l'œuvre de la grâce de Dieu et d'autre part du processus de maturation qui transforme un adopté enfant à un adopté mature. Il est vrai qu'il est déjà porteur des solutions avant même sa naissance, mais la valeur de son cri, la puissance de son cri dépendait de l'œuvre de la grâce de Dieu parce que tout ce que nous faisons et qui marche et qui réussit, n'est que la grâce de Dieu. Mais non seulement que c'est la grâce de Dieu, mais il y a aussi un processus auquel il devait être soumis. Ce que nous avions appelé le processus de maturation. Ce processus qui transforme un adopté enfant à un adopté mature. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les cris qui avaient manqué à Samuel. Tout bébé, naturellement, crie lors de sa naissance. Mais ce n'est pas ces cris-là qu'il fallait pour changer la situation de son peuple. Le cri qu'il fallait, c'était un cri qui devait suivre un cheminement. Un cri qui devait obéir à un processus. Un cri qui devait dépendre de l'adopté enfant pour l'amener à un adopté mature. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne dans Romains lorsqu'il dit, nous avons reçu l'esprit l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et par cet esprit d'adoption, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est extraordinaire. Mais dans Galates, il va encore ajouter quelque chose de très important pour dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, le processus de maturation est important. Vous ne pouvez pas impacter votre monde, vous ne pouvez pas impacter votre environnement si vous n'êtes pas passé par ce processus de maturation. La puissance de son cri dépendait d'une part de l'œuvre de la grâce de Dieu et d'autre part du processus de maturation qui transforme un adopté enfant en un adopté mature. Et nous avons présenté ce processus de maturation sur une pyramide à huit niveaux, si nous pouvons retrouver notre pyramide, notre fameuse pyramide. Voilà. Nous avons présenté ce processus sous la forme de cette pyramide. Et tout commence par servir Dieu tout en portant les fautes. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il faut que celui qui a commencé par servir Dieu en portant les fautes travaille à côté d'un homme appelé. Parce qu'il est maintenant dans un processus, il doit être formé. Il doit être encadré. Mais pas par n'importe qui, par un homme appelé. Et lorsqu'il est à côté d'un homme appelé, il ne doit pas s'arrêter là. Il doit grandir. Et viser encore plus loin, continuer à grandir malgré tout. Et en grandissant, il doit alors être agréable aux hommes et à Dieu. Alléluia. Être agréable à Dieu et aux hommes. Et lorsqu'il est agréable à Dieu et aux hommes, ce ne sera pas tout encore la fin. Il doit chercher ce qui est rare. Et là, c'est extraordinaire quand nous arriverons là, si Dieu nous le permet. Chercher ce qui est rare, mais apprendre de son Père spirituel, parce que quand on trouve ce qui est rare, ça peut nous amener à l'orgueil. Ça peut nous faire croire que nous sommes arrivés. C'est là que vous avez besoin d'apprendre de votre Père spirituel. Et quand vous avez appris de votre Père spirituel, il faut alors être transparent avec lui. Être vrai avec lui. Et quand vous avez franchi de ce niveau, alors votre appel ou votre don peut être reconnu par tous. Alléluia. C'est extraordinaire si vous appliquez cette pyramide dans tous les domaines de notre vie. Alors, nous étions déjà en train d'analyser les premiers points, servir Dieu tout en portant les fautes. Nous avions introduit cette première marche de la pyramide, je l'appelle première marche parce que c'est le premier niveau. Nous avions introduit cette première marche de la pyramide de la maturation par la question suivante. Quand Dieu regarde sa maison à Silo, quelle image voit-il des gens qui y vivent? Tout à l'heure, nous avons vu 1 Samuel 2, 11 à 19. Nous avons vu là-dedans les enfants d'Elkana qui laissent Samuel dans la maison de Dieu. Mais là, dans cette maison, on trouve des gaillards. On trouve des enfants d'Élie qui sont des gangsters dans les sacerdoces. Et c'est pourquoi nous avons posé cette question en disant, parce qu'ils se retrouvent tous dans la même maison, ils sont tous au même endroit. C'est pourquoi nous avons introduit cette première marche par la question suivante. Quand Dieu regarde sa maison à Silo, quelle image voit-il des gens qui y vivent? Et nous avons répondu à cette question en disant, en réalité, Dieu voit deux groupes de personnes. Dans la même maison de Dieu, mais il y a deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui ont renoncé à leur propre vie pour marcher dans la direction de Dieu, pour marcher dans le sens de la volonté de Dieu. C'est le groupe de ceux qui servent Dieu. Mais à côté de ce groupe, et dans ce groupe, vous avez Samuel, parce qu'il est dit, Samuel servait l'Éternel. Mais dans cette même maison, il y a un autre groupe. C'est le groupe de ceux qui n'ont pas le temps pour servir Dieu, mais qui ont seulement le temps pour la viande de Dieu. C'est le groupe des enfants d'Élie. C'est-à-dire, c'est le groupe de ceux qui se servent de Dieu. C'est pourquoi nous avions posé la question ce jour-là. J'avais dit que chacun se pose la question. Dans la maison de Dieu, je suis venu servir Dieu ou je suis venu me servir de Dieu? Parce que ces deux groupes seront toujours dans la maison de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours ces deux groupes-là. Mais toi, ne sois pas dans le groupe de ceux qui se servent de Dieu. Parce que c'est un groupe dangereux. C'est un groupe qui finit par la mort. Parce que les deux fils d'Élie qui, finalement, s'étaient rangés du côté de ces groupes-là, ils avaient fini par être tués. Ceux qui sont allés dans ce groupe-là ont fini par la mort. Nous avions dit que si tu es dans le premier groupe et il t'arrive de passer par des moments, où la viande est loin de toi, ne t'inquiète pas pour la viande que tu n'as pas aujourd'hui, car demain tu en deviendras les 10 unitaires. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas la viande aujourd'hui. Demain, c'est toi qui donneras des ordres. Prends ce morceau-là, donne-le à Saoul. Alléluia. Poursuivons l'analyse de notre première marche de la pyramide de maturation en cherchant à savoir ce matin l'essence du port de l'éphode associé au service de Dieu. Poursuivons l'analyse de notre première marche de la pyramide de maturation ce matin en cherchant à savoir pourquoi l'éphode, le port de l'éphode doit être associé au service de Dieu. Et c'est très important, suivez très bien. Dans 1 Samuel que nous avions lu, 1 Samuel 2, le verset 18, la Bible dit, Samuel faisait les services devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphode de lin. Samuel faisait les services devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphode de lin. La question que nous pouvons tous nous poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'éphode. C'est vrai, nous voyons l'expression de la Bible, mais l'éphode, qu'est-ce que cela veut dire et quel est son sens associé au service de Dieu? L'éphode, de façon courte, signifie couverture. L'éphode signifie couverture. Et quand nous essayons de comprendre à quoi remonte son usage dans les services de Dieu, et là, nous pouvons lire dans Exode chapitre 28, du 1er au 6e verset. Exode chapitre 28, du 1er au 6e verset. À quand remonte son usage dans le service de Dieu, lisons Exode 28, 1 à 6. La Bible dit, « Fais approcher de toi, Aaron. » Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il est en train de donner des ordres sur les services dans les sanctuaires. Comment les choses doivent se faire et ceux qui doivent entrer dans les sanctuaires, comment doivent-ils procéder et de quelle manière seront-ils habillés? Dieu est en train de fixer les principes et les règles du sacerdoce. Il dit à Moïse, chapitre 28, le verset 1er, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces, à Aaron et le fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils employeront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Verset 6. Ils feront l'éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de faire l'un rétor. Il sera artistement travaillé. Alors, lorsque nous parlons de l'éphode, si la technique peut nous donner l'image de l'éphode, voilà, l'éphode, c'est la couverture, comme nous l'avons défini, l'éphode signifie couverture. Ça, c'est le souverain sacrificateur, on a coupé un peu sa tête, mais prenez le nom du souverain sacrificateur. Il a en bas sa robe bleue, et l'éphode, c'est la partie qui vient au-dessus, qui est comme une sorte de gilet. C'est ça, l'éphode. Et il est dit que l'éphode, c'est le vêtement sacerdotal par excellence. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail pour voir la composition de tout ce qui est mis sur l'éphode. Donc voilà l'éphode que portait le souverain sacrificateur. Alors, qu'il s'agisse d'Aaron, parce que nous avons vu ici, il s'agit d'Aaron qui doit porter l'éphode. Pas ses enfants, mais c'est le souverain sacrificateur qui doit porter les fautes. Et dans Samuel, que nous avions aussi lu, la Bible dit, cet enfant c'est-à-dire le tout jeune Samuel qui vient dans la maison de Dieu, il était aussi revêtu de l'éphod. C'est extraordinaire, suivez-moi très bien. Aaron porte l'éphod et Samuel porte également l'éphod ici. Alors nous disons qu'il s'agisse d'Aaron ou de Samuel, être revêtu de l'éphod est loin d'être un simple détail dans les sacerdoces aaroniques. Qu'il s'agisse d'Aaron ou qu'il s'agisse de Samuel, être revêtu de l'éphod est loin d'être un simple détail. Quand la Bible en parle, ce n'est pas un simple détail dans les sacerdoces aaroniques, c'est-à-dire les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron. Au contraire, notez, au contraire, il nous enseigne sur deux aspects importants du service dans la maison de Dieu. Au contraire, il nous enseigne sur deux aspects importants du service dans la maison de Dieu. Le premier aspect, c'est par le fond, on procède par le fond, il est question de l'identification du sacrificateur. Le premier aspect enseigné ici, c'est l'identification du sacrificateur. Et le deuxième aspect, ce sont les grâces du sacrificateur. Alléluia. Nous avons l'identification du sacrificateur, mais aussi nous avons les grâces du sacrificateur. Voyons l'identification du sacrificateur. Identifier, comme vous le savez, identifier en français signifie reconnaître. Identifier signifie déterminer la nature, déterminer l'origine, déterminer l'espèce d'un être ou bien d'une chose. Et dans le cadre du sacerdoce ici, lorsque Dieu ordonne à Moïse de faire le faux pour le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Dieu est en train de dire à Moïse, fais quelque chose qui sera une marque d'identification de ce que j'appelle à mon service. Nous sommes dans un monde où nous avons des corporations, nous avons des services qui s'identifient par leur tenue, par leur uniforme. Quand vous êtes devant un militaire, vous le comprendrez qu'il est militaire à partir de sa tenue. Et s'il n'est pas en tenue, c'est difficile de savoir qu'il est militaire, à moins que vous le connaissiez déjà avant. Les infirmiers aussi ont leur tenue, les médecins ont leur tenue, les mécaniciens ont leur tenue. Donc, dans la maison de Dieu, Dieu a voulu aussi que les sacrificateurs soient identifiés par un habit. Alors, notez ceci. Par ces instructions fermes données à Moïse, telles que nous avons lues dans Exode 28, par ces instructions fermes données à Moïse, l'Éternel a tenu à ce que les hommes qui sont consacrés à son service dans les sacerdoces soient identifiés sur la terre par des vêtements qui leur donneront dignité et gloire. Par ces instructions fermes données à Moïse, l'Éternel a tenu à ce que les hommes qui sont consacrés à son service dans les sacerdoces soient identifiés sur la terre par des vêtements qui leur donneront dignité et gloire. Je voudrais dire ici, avant d'aller loin, c'est que ta dignité, ta gloire, c'est une décision ferme venant de Dieu lui-même. C'est-à-dire, si je dois aller plus loin, Dieu ne t'a pas envoyé pour le présenter au monde faiblement. Dieu ne t'a pas approché de lui pour le présenter minablement. Non. Dieu tient à ce que celui qu'il a enrôlé dans son service, qu'il le présente selon la valeur du royaume des cieux. C'est pourquoi même celui qui n'a encore rien aujourd'hui, quand il accède déjà dans le service, Dieu lui donne déjà la marque de la dignité et de la gloire. Samuel était encore tout petit, un enfant, mais lorsqu'il aborde le processus de maturation, Dieu n'attend pas qu'il atteigne le sommet. Il fixe déjà le principe, c'est que celui qui vient à mon service ne sera pas faible, il ne sera pas médiocre, il ne sera pas ceci ou cela. Pourquoi? Parce que c'est l'image de marque de notre famille que nous sommes en train de présenter là. Je veux dire à quelqu'un, tu ne seras pas sale, tu ne seras pas habillé mal, tu ne seras pas habillé, je ne sais pas, au goût du monde et autres, tout ça. Dieu lui-même a pris soin. Lorsque tu es venu dans sa maison, qu'il te prenne en charge. Il te prend en charge pour la nourriture. Il te prend en charge pour les vêtements. Il te prend pourcentage pour le logement. Il te pourcentage en tout et pour tout. Ça veut dire que si tu me vois aujourd'hui minable et tout, l'essentiel pour moi, c'est que je me retrouve déjà sur la liste des enrôlés dans les services de Dieu. Du fait que je suis sur la liste là, il sait qu'il y a un équipement qui lui manque. Il sait qu'il y a une faute que je dois lui donner. Il sait qu'il y a une identification que je dois faire. Pourquoi? Parce que si je suis sale, c'est la maison que je suis en train d'exposer. Dieu ne veut pas que son royaume soit représenté faiblement sur la terre, mais il tient l'image des marques de son royaume. Il tient l'image des marques dans son royaume. En donnant un sacrificateur de vêtements pour leur dignité et gloire, Dieu a misé sur son image de marque tant à l'interne qu'à l'externe. Vous comprenez ça? Tant à l'interne qu'à l'externe, il mise sur l'image des marques. Mais regardez ce qui est extraordinaire. La Bible dit au verset 19 de 1 Samuel 2 que chaque année, Anne apportait à son fils Samuel une petite robe. Ce que Anne apportait, c'est ce que nous pouvons voir, ce qui est en bleu là, et tout ça. Mais, c'est un habit qu'elle apportait chaque année. Mais l'habit qui devait faire la dignité et la gloire de Samuel ne venait pas de la famille. Mais c'est un habit qui est sorti du sanctuaire, qui est sorti de la maison de Dieu. C'est cet habit de fraude qui était le symbole de la dignité de la gloire. C'est pour dire à quelqu'un, ta dignité ne dépend pas de tes diplômes. Ta dignité ne dépend pas de ton rang familial, de ton rang social. Ta dignité n'est pas la valeur de tes soucis de la famille. C'était la robe de la famille. Mais au-dessus de cette robe, il a fallu que la maison de Dieu donne quelque chose. Nous, là, la maison de Dieu nous a appuyés. La maison de Dieu nous a donné quelque chose. Si vous nous voyons aujourd'hui ce que nous sommes, de ce sanctuaire est sorti quelque chose. De cet endroit est sorti quelque chose. En réalité, vous ne serez pas devant nous. En réalité, vous ne nous considérerez pas. Mais si vous nous avez considérés, c'est que tout petit que nous étions entrés dans la maison de Dieu, il nous avait revêtu de la faute. Il était tout jeune, mais Dieu dit, je n'attends pas qu'il grandisse. Mon honneur, c'est par rapport à ta présence dans ma maison. Tu ne seras pas dans la maison de Dieu médiocre. Tu ne seras pas dans la maison de Dieu minable. Je te donne l'honneur. Je te donne la dignité. Je te donne la valeur. Ne te moque pas de celui qui est mal habillé aujourd'hui. Parce qu'il y a une réalité, une vérité. C'est qu'il est dans les services de Dieu. Dans la maison de Dieu, il recevra les fautes. Il recevra les fautes. L'habit qui lui donnera une dimension très élevée, une dimension supérieure. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne serviras pas Dieu faiblement ou de façon minable, car cela va de l'image de marque de son royaume. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, c'est qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne te débrouilleras pas pour chercher la tenue. C'est du sanctuaire que viendra la vie. C'est de la maison de Dieu que viendra la vie de gloire. Ça ne sera pas cet habit qui vient de la maison. Anne pouvait bien apporter chaque année une robe. Et il avait fait pendant combien d'années? Ça veut dire autant d'années, autant de robes. Mais c'est les fautes. Un seul faute. À chaque fois qu'elle venait avec son habit, Dieu disait, ce n'est pas cet habit qui te donnera la gloire. Mais moi, je te donnerai un autre habit qui fera ta dignité. Je te donnerai un autre habit qui fera ta gloire. Ne mise pas sur tes diplômes. Ne mise pas sur ta beauté. Ne mise pas sur ce que tu sais déjà faire. Ne mise pas sur tes relations. Mise sur le fond qui est donné par le sanctuaire. Tu peux venir nu, mais le fond te donnera de la valeur. De toute façon, la différence est au niveau des familles. Il y en a qui sont des familles riches, qui peuvent avoir la robe là, en tout cas comme la robe de Joseph, qui avait été faite par son père Jacob. Il y en a d'autres qui viennent des familles sans Christ, sans rien. Mais tous, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes tous couverts par les fraudes. Que tu aies une veste de 200 dollars, que tu aies, je ne sais pas moi, des habits de 500 000, 2 000 dollars. Mais dans la maison de Dieu, tout cela disparaît et nous présentons les fraudes. Les fautes, l'habit de la gloire de Dieu, l'habit de la différence, l'habit de la dignité. Ne regarde pas ce que tu as mis. Ne regarde plutôt à ce que le sanctuaire peut te donner. Le sanctuaire est capable de laver ton image. Le sanctuaire est capable de relever ta situation. Le sanctuaire est capable de t'honorer. Le sanctuaire est capable de tout. Matthieu 6, 31, 32. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est dans la maison de Dieu. Ça j'aime. La robe venait de Anne, mais le faute venait du sanctuaire. Entre les deux, c'est le faute qui gagne. C'est le faute qui gagne. Tu te tues souvent pour chercher la robe de Anne. Tu es prêt à couper ton sommeil pour chercher la robe de Anne. Tu es prêt à prendre les risques, les accidents et tout ça, juste pour chercher la robe de Anne. Et sachez une chose, que si tu n'as pas les fautes, tous ces efforts-là sont vains. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous parle de ces hommes qui étaient autres de nous tous-là, qui étaient autrefois sans Dieu, sans Christ, sans alliance. Mais si aujourd'hui nous faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu, c'est à cause des fautes. Le faute qui est la typologie de Jésus lui-même. C'est-à-dire toute la valeur que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous portons sur nous Christ. C'est parce que nous portons sur nous Jésus lui-même. Et c'est lui qui nous donne toute cette dignité. Tu prêches bien, tu fais bien, tu parles bien, tes affaires marchent et tout ça. Ne te donne pas toute cette gloire-là. Dis-toi, il y a quelqu'un qui m'a couvert. Il y a une couverture. Jésus est la couverture qui m'a fait honorer devant les hommes. Jésus est le faute qui m'a fait honorer devant les hommes. J'ai cette couverture parce que si vous enlevez cette couverture, vous trouverez la robe de la famille. C'est une robe sale. C'est une robe inutile. C'est une robe de misère. C'est une robe de maladies incurables. C'est une robe de la malédiction. C'est une robe de la pauvreté à outrance. Mais si vous nous voyez ce que nous sommes, c'est parce que Jésus est venu comme une couverture. Il est venu comme une faute sur nous. Il est venu couvrir notre honte. Il est venu couvrir notre nudité. Comment je ne peux pas louer et adorer ce Dieu-là? Comment je ne peux pas célébrer et exalter ce Dieu? Il a couvert, il m'a donné ce qu'il a donné à tout le monde. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas regardé qui est qui dans le monde. Mais devant lui, il nous a dit, peu importe ce que vous apportez, que vos robes d'avant soient dignes ou pas, que vos robes d'avant soient chères ou pas, mais moi je vous donnerai ce qui est commun à tout le monde. Il nous a donné à nous tous le faute. Ne regarde pas ton frère, ta sœur comme étant un raté. Non, non, vous avez tous été habillés de la même manière. Vous avez tous été habillés de la faute. Ne pensez pas que tu sois supérieur à ton frère. Non. Celui qui est devant a la faute. Celui qui est assis a la faute. Personne n'est au-dessus de l'autre. Tous nous sommes égaux. Il nous a tous habillés de la faute. Il nous a tous habillés de la faute. Ne crois pas que tu sois un super-homme. Quand tu fais des voyages à gauche et à droite, ne crois pas que tu sois un super prédicateur quand tu es entre les deux avions. Ne crois pas que tu es une superbe femme d'affaires, parce que pour toi ça marche très bien. Mais en Jésus, tous nous avons un trait commun. Il nous a couvert de la faute. Je vais changer ma façon de voir mon frère. Je vais changer ma façon de considérer ma soeur. Il a couvert notre nudité par les fautes. Il a couvert ta nudité par les fautes. C'est pourquoi il est dit dans le Nouveau Testament, n'appelez personne directeur, n'appelez personne président et tous ces autres, mais vous êtes tous des frères, c'est-à-dire vous avez tous un trait commun, l'uniforme, le faute. Nous avons tous les fautes. Nous avons tous les fautes. Notez ceci, à Silo, Samuel recevait de sa mère une robe chaque année, comme nous l'avons dit. À Silo, Samuel recevait de sa mère, Anne, une robe chaque année. Notez ceci. Mais pour servir Dieu dans les sacerdoces, il lui a fallu l'uniforme fourni par les sanctuaires. Il recevait chaque année un habit venant de la maison, de la famille. C'est très bien de garder ce lien, c'est formidable. C'est très bien de garder ce lien avec nos familles, c'est très bien. Parce que le processus de maturation, Dieu ne veut pas que nous coupions les ponts avec nos familles, non. Non. Dieu ne veut pas que nous coupions les ponts, non. Anne apporte la robe, mais Dieu ajoute les fautes. C'est très important, frères et sœurs. Beaucoup on pense que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous coupons les ponts avec la famille. Non. Nous ne coupons pas les ponts avec la famille. Non. Quand nous parlons de l'effort, il y a cela quelques semaines, il y a mon frère qui m'a appelé, mon grand frère, propre, c'est quoi s'il va suivre, c'est son problème. Vous savez, l'effort nous a donné toute la valeur que nous avons. Et il a des enfants, ils ont mal commencé avec sa femme et tout ça, ils sont à la Macédoine, Boma. Et j'ai insisté pour qu'ils y aillent et tout ça, toute la famille finalement. On a travaillé des fois, vous avez dit, ça ne vaut plus la peine. Parce qu'ils sont têtus, ils sont ceci, ils sont cela. Et ils ont eu des enfants comme ça, en désordre et tout ça. Et l'autre fois, il me dit, je vais régulariser. Et je suis déjà en plein processus. Et puis il me dit, la même chose, mais au CFA. Il me dit, comme ça, on va parler là. Donc il dit, moi, je deviens son parrain. Mais la regarde de l'autre côté. Vous voyez ce que le fond est capable de faire. Le fond peut renverser l'ordre de naissance. Il est loin, je suis très loin là-bas par rapport à lui. Mais il me dit, comment parrain? Parrain la famille. Assis-le, je disais, sa mère recevait de sa mère une robe chaque année. Mais notez ceci, pour servir Dieu, il lui a fallu l'uniforme fourni par le sanctuaire. Autrement dit, tu ne peux pas servir Dieu et t'identifier par l'uniforme familial. Tu ne peux pas servir Dieu et t'identifier par l'uniforme tribal. Tu ne peux pas servir Dieu et t'identifier par l'uniforme de quelqu'un d'autre. Dans la maison de Dieu, le service est fait par l'uniforme décidé par Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas fabriquer notre uniforme en servant Dieu. L'élément de l'identification, c'est ce qui est sorti du sanctuaire. Combien n'ont-ils pas amené des uniformes qui n'ont rien à voir avec Dieu dans le sanctuaire? Ils ont amené l'uniforme de la prostitution. Ils ont amené l'uniforme de la magouille. Ils ont amené l'uniforme de vol. Ils ont amené l'uniforme de la corruption. Ils ont amené l'uniforme d'un clan. L'uniforme d'une famille. Mais Dieu dit, vous me servirez avec mon uniforme. Vous ne fabriquerez pas vos uniformes à vous. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cet élément d'identification que je vous approuverai dans ma présence. Vous ne pouvez pas être identifié dans la maison de Dieu avec l'uniforme du monde. Non. Ça c'est très important, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vous engager dans ce processus, dans cette pyramide de maturation et avoir déjà à la base un service qui est déjà rongé par une vie du péché. Non. Dieu tient à son image de marque. Il tient à ce que tu évolues. Mais déjà à la base, il veut fixer les choses. Tu me serviras, mais tu me serviras avec mon uniforme à moi. Tu ne me serviras pas avec l'uniforme du monde. Tu ne me serviras pas avec tes pensées du monde. Tu ne me serviras pas avec tes enseignements du monde. Tu ne me serviras pas avec la tradition du monde. Tu me serviras suivant ce que j'ai prescrit. Tu me serviras avec tout ce que j'ai prescrit. Tu n'inventeras pas ta robe à toi. Tu n'inventeras pas des choses qui viendront de toi-même. Non, pas du tout. Dieu n'a pas laissé les sacrificateurs les servir dans la tenue de son choix ou de son goût. Non. Nous servirons Dieu avec sa tenue telle qu'il a décidé. Il a choisi les fautes et nous devons porter les fautes. Qu'on le veuille ou pas, si nous voulons être agréables devant Dieu, nous devons nous être revêtus de l'effort, pas autre chose. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, dans l'effort, nous avons vu au verset 6, il y a les éléments qui ne doivent pas manquer dans l'effort. Il faut que l'effort soit fait d'or. C'est la pureté. Ton effort doit avoir de l'or, la pureté. Ton effort doit avoir le fil cramoisi. Souvenons-nous de Rahab, la prostituée. Il a fallu un signe du sang de l'agneau pour qu'il ne soit pas mis à mort. Ton effort doit avoir l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu dois passer par la croix. Tu dois passer par le sang de Jésus. Tu dois passer, être lavé par le sang de Jésus. Ton effort doit être de faire les retors, de couleur blanche. C'est-à-dire la pureté personnelle. Dieu est tiers à ça. Dans quel état se trouve ton uniforme? Dans ce processus de maturation, nous avons dit que nous pouvons l'appliquer dans tous les secteurs d'activité. Toute corruption, toute sorte d'antivaleur à la base d'un processus attaque déjà le processus à la base. Un élève qui veut devenir grand demain et qui a déjà commencé en première année graduée à tricher, à corrompre pour passer les classes, demain il deviendra une bombe pour le pays. Et c'est ce que nous voyons. C'est-à-dire déjà à la marche de départ, la première marche, Dieu tient la pureté, car c'est la pureté qui rendra solide tous les processus. Je fais les affaires, je déclare au fils que ce qu'il faut. Mais c'est comme ça. Même le monde a compris que quand on fait les choses dans la droiture, dans la véracité, on fait des bénéfices. C'est parmi les principes si vous voulez gagner dans les affaires. Soyez honnête, soyez correct et déclarez ce qu'il faut. Ça fait avancer. Nous avons développé des réflexes de diminuer, de modifier les choses. Ça fait noyer. Je vous donne un conseil gratuit. C'est comme ça que ça marche. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une tenue avec laquelle nous devons nous approcher de Dieu. Il est dit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, les sacrificateurs devaient entrer dans la salle d'assignation portant le fondre. C'est-à-dire, pour apparaître devant Dieu, ils devaient être revêtus de le fondre. C'est-à-dire, notre vie doit être une vie de sanctification. Une vie de pureté. Une vie de sanctification. Il est dit dans 1 Jean 3, le verset 2, nous pouvons lire. 1 Jean 3, le verset 2. Je crois que j'avais donné ça à la technique. 1 Jean chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, le verset 2, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant qui? Enfants de Dieu. Et ce que nous faisons n'a pas encore été manifesté. Prenons ça dans le sens de la pyramide, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Verset 3. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, fait quoi? Se purifie comme lui-même est pur. Puisque nous avons cette espérance que nous arriverons au sommet de la pyramide, agissons dans la pureté et lavons-nous dans le sang de l'agneau. Rapidement, je prends le deuxième aspect, parce que la matière est tellement abondante qu'il ne faut pas tout le temps faire dormir les choses. Les grâces du sacrificateur, rapidement. Les grâces du sacrificateur. Nous avons lu avec vous l'Exode 28 et 6, où nous avons vu les avis du sacrificateur à Aaron. Mais aussi nous avons lu 1 Samuel 2, 18, où il est dit que cet enfant était revêtu d'un effort de l'air. Alors, en comparant ces deux passages, en comparant Exode 28, 1 à 6, avec 1 Samuel 2, 18, nous constatons que le faune était le vêtement par excellence du souverain sacrificateur à Aaron, oui ou non? C'est ce que Dieu a ordonné à Moïse. Qui fera tout ça pour Aaron. Donc, nous constatons que le faune était le vêtement par excellence du souverain sacrificateur à Aaron. Mais ce vêtement, Aaron l'a apporté à l'âge adulte. C'est-à-dire, lorsque Dieu appelle Aaron, il avait déjà des enfants. Et des enfants, je crois qu'on pouvait aussi déjà avoir des enfants. C'était un vieux. Parce que si Moïse a été appelé pour sortir les enfants d'Israël déjà à 80 ans et plus, hors Aaron et son grand frère. Donc, il était déjà un vieux. En comparant Exode 28 et 6 avec Exode 18, je constate que le fond était le vêtement par excellence du souverain sacrificateur Aaron, qu'il a porté à l'âge adulte. Je constate aussi que Samuel étant un enfant, et n'étant pas de la lignée directe des sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, était revêtu du même foi. Tout ceci me pousse à dire que dans la maison de Dieu, les grâces ne sont pas une affaire de l'âge ou du rang social, mais plutôt de notre disponibilité à servir Dieu. Tout ceci me pousse à dire que dans la maison de Dieu, les grâces ne sont pas une affaire de l'âge ou du rang social, mais plutôt de notre disponibilité à servir Dieu. Tu peux être enfant, mais tu as les grâces d'un papa. Tu as les grâces d'une grande personne. Dieu ne nous donne pas de grâces selon notre âge. Dieu ne nous donne pas de grâces selon notre appartenance. Tu peux venir aujourd'hui dans le département, mais tu développes des grâces. Puisque celui qui a fait 15 ans, 20 ans et 21 ans comme la borne m'a dit, Dieu ne regardera pas ton rang social. Il ne regardera pas tes sources familiales. Cela ne l'empêchera jamais à te donner de porter la dignité des grands. Ça m'a fait réfléchir. Aaron a porté les fautes à l'âge adulte, c'était un vieux. Mais Samuel vient porter les mêmes fautes en tant qu'un petit enfant. Il entre dans la maison de Dieu enfant, mais il porte les fautes du souverain sacrificateur. C'est formidable, frères et sœurs. C'est pourquoi, peu importe ton âge, ne te diminue pas, ne te minimise pas. En réalité, pour Dieu, ce qui compte, c'est que tu sois à son service. Parce que vous pouvez trouver deux personnes dans l'église, un vieux avec un gros ventre, un bon français, mais ne servant pas Dieu, mais avec un petit enfant, 15 ans, 17 ans, 18 ans, pas grand chose, mais assidu aux choses de Dieu. Dieu ne remettra pas les fautes par rapport à l'âge, mais il remettra les fautes par rapport à notre disponibilité à servir Dieu. Serve Dieu et tu porteras les fautes. Mets-toi au service de Dieu. Et tu porteras le faute. Un proverbe français dit ceci. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais moi je dis, aux âmes servant Dieu au pied de la pyramide, les talents et les dons n'ont pas besoin d'attendre la fin du processus de maturation pour s'exprimer. Aux âmes servant Dieu au pied de la pyramide, les talents et les dons n'ont pas besoin d'attendre la fin du processus de maturation pour s'exprimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu n'attendras pas être au sommet pour étonner le monde autour de toi. Non. Tu n'attendras pas arriver d'abord à l'appel ou don reconnu par tous pour que tu étonnes le monde autour de toi. Regardez ce qui se passe avec le Seigneur Jésus. Il commence son ministère à quel âge? À 30 ans. Mais déjà à 12 ans, il est dans le temple. Il monte avec sa famille et il se perd. La famille rentre. Mais lorsque Marie et Joseph rentrent pour chercher l'enfant, ils le trouvent autour de qui? Des docteurs de la loi. Ils le trouvent au milieu des hommes qui sont étonnés par sa sagesse. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'un titre pour bien prêcher. Oh non, tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, mais c'est la chose du titre qui fait l'homme. Aie la chose du titre et tu créeras la différence autour de toi. Tu n'attendras pas être ici devant pour faire de grandes choses. Même à la cellule, tu peux bouger. Même à l'école, tu peux bouger. Même au travail, tu peux bouger. Même au quartier, tu peux bouger. Tu n'as pas besoin d'avoir d'abord un dimanche ou deux dimanches de prédication pour que tu sortes des choses extraordinaires. Non! Il est clairement prouvé que tu n'attendras pas la fin du processus pour que les dons et les talents s'expriment. Les dons et les talents qui sont en toi, Dieu créera de temps en temps des occasions. Dieu créera de temps en temps des opportunités. Tu attendras quelqu'un te dire, viens frère, nous exhorter un peu ici. Même si c'est un culte familial, les dons et les talents vont s'exploser. Ne te dis pas que je vais attendre les titres tuent. Le titre est tu. Tu n'attendras pas être au sommet pour étonner le monde autour de toi. Jésus, la docteur, n'avait pas attendu la fin du processus de maturation à 30 ans pour étonner le docteur de la loi. à 12 ans déjà, les grâces de Dieu sur lui créaient l'étonnement autour de lui. Notez ceci. Dans la maison de Dieu, tu n'auras pas d'abord le titre, mais en servant Dieu, tu posséderas déjà la chose du titre. Dans la maison de Dieu, tu n'auras pas d'abord le titre, mais en servant Dieu, tu posséderas déjà la chose du titre. Je préfère avoir la chose du titre que d'avoir le titre sans la chose. Je préfère avoir la chose du titre que d'avoir le titre sans la chose. Beaucoup courent derrière le titre, mais sans avoir la chose du titre. Samuel est dans la maison de Dieu sans un titre officiel du souverain sacrificateur. Mais il porte déjà sur lui l'habit du souverain sacrificateur. Dieu n'attendra pas te donner un titre pour te qualifier. Mais il anticipe. Il te donne la chose du titre. Et le titre viendra à régularisation. Lève-nous, nous allons prier. Oh Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Lève-nous, s'il vous plaît. Du sanctuaire viendra ta dignité. Du sanctuaire viendra ce qui couvrira ta honte. Du sanctuaire viendra ce qui couvrira ou donnera de la valeur à ce qui vient de la famille. Tu n'as que la robe de la famille, mais sache que la dignité ne viendra pas de cet habit-là. Change ta façon de voir les choses. Change ta perception de service de Dieu dans sa maison. Tu es resté beaucoup plus attaché à la robe de Anne. Et pourtant la dignité ne viendra pas de là. La dignité viendra de la vie qui sortira du sanctuaire. Tu es dans le sanctuaire, ça fait combien de temps? Tu vas prier ce matin pour dire à Dieu que j'ai une faute, la vie de la dignité. Que j'ai une faute, la vie de la gloire. Je ne sais pas ce qui est dit autour de toi. Comment le monde te regarde? Comment le monde te juge? Comment le monde te traite? Qu'est-ce qu'il voit? Peut-être que tu as la vie sale. Oui, c'est vrai. Mais Dieu donne le faute pour effacer toute cette saleté. Dieu donne le faute pour annuler toute cette saleté. Déjà, la première marche, il te rend digne. Déjà, la première marche, il te donne ce qui est glorieux. Alors, ne reste pas dans ce qui est sale, dans ce qui est minable. C'est l'image des marques de la maison qui est en jeu, là. Mais aussi dans la maison de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu avec l'uniforme de la magouille, de la corruption et l'uniforme de toutes sortes de mauvaises pratiques. Dans la maison de Dieu, on sert Dieu avec son uniforme. La dignité vient de l'uniforme qui sort du sanctuaire. Et l'uniforme qui sort du sanctuaire a de l'or, la pureté, la sainteté. Ces choses qui, tu vas arriver au sommet, c'est vrai. Mais Dieu te dit, avant que ces choses n'arrivent, prépare-toi. Sois pur, sanctifie-toi. Parce que c'est avec la sanctification que tu verras Dieu. Mais aussi, tu vas prier ce matin pour dire à Dieu, je ne veux pas courir derrière le titre, mais je veux avoir la chose du titre. Tant que j'ai la chose du titre, je n'ai pas peur du titre. La chose du titre régularisera le titre. Je ne cours pas derrière le titre, mais je chercherai en secret la chose du titre. Et la chose du titre sort du sanctuaire. La chose du titre sort de la maison de Dieu. Demande la chose du titre dans la maison de Dieu. Demande la chose du titre dans la maison de Dieu. Il dit à Israël, demande-moi des nations pour héritage. Demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Si tu demandes quelque chose, tu l'auras et le titre viendra en régularisation. Seigneur, merci pour ta parole. Dans ce processus, oh Dieu, tu as voulu à ce que la première marche, Seigneur, soit posée, oh Dieu, sur des bases pures. Tu as voulu, oh Dieu, que nous te servions portant les fautes. Nous te servirons pas faiblement. Nous te représenterons pas faiblement, oh Dieu. Mais nous te présenterons avec toute la dignité et toute la parure qu'il faut. Bénis ces hommes et les femmes. Donne, Seigneur, au Dieu, à chacun de nous de porter les fautes. Peu importe les circonstances, peu importe le temps que nous traversons. Peu importe les réalités, ô Dieu, qui sont là et visibles par tous. Donne les fautes comme une couverture. Et une couverture qui donnera la gloire et la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Et bénis ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires et tout ce que nous apportons comme libéralité. au nom de Jésus.